Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.
Bonjour à tous, c'est Jean-Christophe Drouet, vous écoutez votre podcast golf, le Practice RMC, épisode 10, des bleus sur les greens.
Le Practice RMC, Jean-Christophe Drouet.
Salut à tous les amoureux de la petite balle blanche, c'est le 10e épisode du Practice RMC. Merci infiniment de votre fidélité. Votre podcast golf que vous retrouvez deux fois par mois au sommaire aujourd'hui, le Shotgun. Nous sommes en septembre, l'heure de la rentrée, des nouvelles envies, pourquoi pas le golf, comment s'y mettre. On va vous aider avec notre invité Pierre-André Hulaine, directeur général de U-Golf et de Blue Green. Bonjour Pierre-André.
Bonjour à tous.
Salut, merci d'être avec nous. Avant de nous donner quelques billes nécessaires pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent commencer ce magnifique sport, une question indispensable pour le Practice RMC, ton index.
Il monte. Il ne cesse de monter, mais ça va, je suis autour de 5-6.
Oh bah c'est bien 5-6.
Ouais, j'ai connu plus bas.
Bravo.
Mais il y a longtemps.
Il y a longtemps, moi j'aimerais bien être 5-6. Pour cette rentrée, un cadeau exceptionnel à gagner. Un an d'enseignement valable sur l'un des 100 Golf, Blue Green ou U-Golf, ça s'appelle All For You. Dans le package, vous avez les cours collectifs à volonté, l'accès au parcours à volonté, le passage de la carte verte et le kit matériel club plus le sac. Valeur de ce cadeau, plus de 1000 euros. Pour le remporter, vous envoyez Golf au 732-16. Golf au 732-16. Un an d'enseignement. C'est juste pour vous, les auditeurs. Donc n'hésitez pas, vous pouvez jouer. Le type de Ramucho Artola, notre prof de golf. Salut Ramucho.
Bonjour JC, salut tout le monde.
Patron de l'enseignement du golf Blue Green de Pessac. Quel conseil, le conseil du jour, prof?
Aujourd'hui, je vais vous donner trois petits conseils pour bien taper vos toutes premières balles.
Ok, forcément, on débute le golf. Comment bien débuter? Comment tenter de faire, ne serait-ce voler la balle sur 3-4 mètres peut-être?
C'est déjà très très bien.
Et c'est déjà très jouissif, bien. Je suis bien d'accord avec toi. Le triple bogey de Simon Dutin. Salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde. Aujourd'hui, Phil Mickelson, comme s'il apprenait à jouer, qui se ridiculise à l'US Open le jour de son 48e anniversaire.
On va se régaler, j'aime beaucoup ça. Le clubhouse, comme d'habitude, à consommer sans modération. Notre VIP devra répondre aux questions les plus indiscrètes sur son jeu. Notre VIP aujourd'hui, ancien tennisman professionnel, capitaine de l'équipe de France de Fed Cup. Bref, une pointure. C'est Julien Beneteau. Salut Julien.
Bonjour à tous.
Salut Julien.
Ravi de te retrouver dans les locaux d'RMC. Julien, ton index ?
6.
Il s'en faisant la moue.
Avec la moue. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe golfiquement parlant ? T'as plus le temps de jouer, c'est ça ?
Non, mais bon, il y a une période de stagnation.
Ok. Et ton meilleur, c'était quoi ? Non, t'as réussi à jouer en dessous de 6 ?
Mon index a été en dessous de 6, oui. 5-7, un truc comme ça.
Bon, tu vas nous expliquer comment tu t'es mis au golf et comment tu arrives à jouer, aussi à allier une vie de sportif de haut niveau et de jouer au golf qui est aussi ton autre passion. C'est parti pour l'épisode 10.
Le Practice RMC, le Shotgun.
Alors avant de donner envie aux futurs golfeurs en herbe de venir nous rejoindre, de jouer... On est en septembre, j'imagine que vous avez écumé les golfs tout l'été. Est-ce que vous avez un petit conseil pour nos auditeurs? Un petit golf qui vous a plu? Simon Dutin, on commence avec toi.
Ah bah moi j'ai joué à la maison, évidemment, à Pessac, avec monsieur le professeur Ramucho. Et puis je suis allé jouer à Chiberta et à Royan, qui est mon parcours préféré.
Pourquoi préféré?
Parce que j'ai été à une époque à l'école de golf, justement, à Royan. J'y jouais avec ma grand-mère et qu'il est absolument magnifique et très difficile.
Ok, tu m'emmèneras avec toi?
Volontiers, Jean-Christophe, quand tu veux.
Ramucho, t'as joué où, toi ?
Un peu comme Simon, je suis retourné sur mon club d'origine, à Chantaco, où j'ai fait 3 fois 9 trous en une semaine, mais plutôt en fin de journée, avec des copains.
Ok, tu scores combien en ce moment, toi ? Tu scores combien, toi, en ce moment ?
Oh, j'ai réussi à faire un 9 trous à moins 2, ce qui était exceptionnel.
Okay. Et sur 18 ?
On a arrêté au 9, mais j'étais bien parti pour faire moins 2, moins 2, moins 4. J'étais déçu parce que c'est la nuit qui nous a rattrapés.
Un petit conseil, Julien, t'as joué où toi cet été ?
Alors moi, pour mes 40 ans, je suis parti pour la première fois en Écosse, fin juillet, et c'était exceptionnel. On est allé à Saint-Andrews, on n'a pas joué le Old Course, mais on a découvert deux parcours formidables, Dumbarney et Kings Barnes, qui font partie un peu des Kings Barnes, qui fait partie quand même des mythes des parcours écossais. Non, et on avait, j'étais avec 5 autres golfeurs qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le golf, et qui n'avaient jamais vu ça, notamment pour Dumbarney.
Ok, les links, tu aimes ça ? Tu as un a priori ou non, franchement ça...
C'était la première fois que je jouais sur des links et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le dessin des parcours, la manière de penser les coups, de jouer avec les éléments naturels. Et forcément, il y a toujours un peu de vent là-bas en Écosse. Donc, non, de réfléchir à tout ça et de prendre en compte vraiment le terrain, c'est vraiment, vraiment challenging. Mais c'était vraiment ce qu'on recherchait. Et quand on joue au golf, c'était quelque chose de hyper intéressant.
Et tu as scoré ou pas?
J'ai pas mal joué les deux premiers jours. J'ai fait 2 fois 78. Parce qu'on a fait 36 trous, 36 trous.
Ouais, ok.
Et 18 le dimanche matin. Donc j'ai fait 78-78 le premier jour. J'ai éclaté le samedi. Et à Kings Barnes, j'ai joué. Donc c'est un par 112, j'ai joué 84. Mais j'ai en jouant très, très, très bien. Les conditions étaient très dures. Et j'ai joué 12, mais j'étais content de jouer 12.
Ok, t'arrives à driver à combien? Parce que je sais que t'as une, pour avoir déjà joué avec toi, t'as une puissance assez, assez belle, t'as un très beau geste. Sur les links, là, t'arrivais à faire 270, 280?
Ouais, plus. Avec, ça roulait, avec vent dans le dos, c'était, il y avait des coups vraiment. On a tout eu. On a eu, on a fait des drives de 290, 300 mètres. Et puis à 120 mètres, troisième coup d'un par 5, j'étais obligé de prendre faire 7. Voilà, c'était, c'est ça qui est incroyable là-bas. Et non, c'était vraiment justement ça. Avant chaque coup, bon, il y a beaucoup de réflexions à avoir.
Pardon, excuse-moi.
Non, vas-y.
C'est un peu le charme des links. Tu ne peux pas avoir un jeu stéréotypé. Tu es obligé de t'adapter aux conditions qui sont très changeantes d'un trou à l'autre, ou même d'une journée à l'autre, en Angleterre, en Écosse, en Irlande, c'est clair. Ouais, ouais.
Pierre-André, tu as joué où? Tu as le temps de jouer en ce moment ou pas?
Moi, ouais, je prends le temps quand je peux. Et belle découverte à Baden, dans le golfe du Morbihan. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait un eagle, donc fait un petit eagle. Comme c'est assez sec, Rambo Show, un peu links. Okay.
Eagle sur un par 4, rentrer un coup de fer ou sur un par 5?
Non, sur un par 5. Drive fer 7, putt et eagle.
Incroyable.
Dans très la propre. Besace.
Très très propre.
Directeur général U-Golf et Blue Green. Bah voilà, on peut être directeur général et taper des eagles quand on va en week-end ou l'été. Bravo à toi.
Et toi, JC, t'as joué où? T'as joué un peu?
Ah mais moi j'ai joué évidemment. Je ne fais que ça. Je ne fais que jouer. Alors j'ai joué en Dordogne. Je connaissais pas. Je vous le conseille. Dans un lieu magnifique. C'est à quelques kilomètres de Montbazillac. Ça c'est pour les amateurs de la boisson que je suis également. C'est à 1h30 de Bordeaux. Ça c'est pour vous les gars, Rabucho et Simon. Ça s'appelle le Château des Vigiers. C'est un hôtel spa golf. Il y a 3-9 trous, il y en a pour tous les goûts. Ça s'appelle le lac, les vignes, la vallée. Donc à chaque partie, vous composez votre menu. Vous faites un petit peu comme vous voulez. C'est assez différent et c'est vraiment très sympa. C'est très ludique. Et alors, si vous y allez dans ce château des Vigiers, à chaque fois, il y a l'arrivée sur le château. Ça, c'est pour à chaque 9 trous. Et c'est une arrivée extrêmement difficile. D'ailleurs, j'aurai besoin de toi la prochaine fois, Ramucho, que je vais là-bas. Parce que c'est à chaque fois, c'est des par 4, mais qui sont assez longs, qui descendent. Dodleg, et il y a le lac. Voilà. Donc il y a tout pour faire.
Pour faire le bar.
Tout pour faire peur. Donc voilà. En tout cas, si vous voulez passer 2 jours hors du temps, je vous conseille vraiment le Château des Vigiers. Et en plus, ils adorent notre podcast. Donc ils vous offrent 2 green fees. Donc vous allez sur mes réseaux sociaux et il y aura 2 green fees à gagner pour aller là-bas. Et petit plus qui a son importance, tu connais mon amour pour la nourriture. Il y a un petit restaurant étoilé, et ça évidemment. Petit d'ailleurs, il est divin. Ça évidemment, après la partie, c'est plutôt très sympa. En tout cas, je vous emmène la prochaine fois, c'est promis, en Dordogne. On va débuter ce podcast avec un chiffre qui prouve que le golf connaît un véritable frémissement. En 2021, le nombre de licenciés a atteint un nouveau pic, 335 000 contre 210 000 en moyenne ces 10 dernières années. Les nouvelles licences représentent 47 000 joueurs, un chiffre jamais atteint. Comment se mettre au golf? Comment bien débuter pour ne pas être dégoûté après 3 sauts de balle? On va parler de démocratisation dans ce podcast avec toi notamment, Pierre-André. Déjà, est-ce que tu as la sensation qu'il y a de nouveaux adeptes? Il y a un frémissement au niveau du golf.
Déjà, je vais reprendre les chiffres pour te donner les bons chiffres.
Ah bon?
Puisque fin 2021, on finit à 430 000, plus de 430 000 licenciés.
Mais j'ai dit quoi? J'ai dit 437?
437, moi j'ai compris 237, mais pardon.
Ah c'est vrai, d'accord. C'est moi qui ai fait l'erreur, d'accord.
437 000 licenciés, une belle progression de 8% par rapport à 2020, qui était une bonne année malgré le Covid. On passe quatrième discipline sportive en France, devant le foot, le cheval, et puis
l'équitation et le tennis.
Et le tennis, voilà. Et notre objectif c'est de dépasser le tennis, Julien. Mais tous les tennismans au golf.
Voilà.
Et donc le mois de septembre, ouais, c'est l'opération porte ouverte. On fait découvrir le golf à tous ceux qui veulent. C'est gratuit. Il suffit de s'inscrire sur le site internet initiationgolf.fr. On s'inscrit et il y a 100 golfs qui vous ouvrent les portes. Venez comme vous êtes. Ça dure 2 heures. Et notre objectif, c'est vous donner du plaisir. et Ramucho nous donnera quelques conseils pour se faire plaisir très très vite. Comment on lève la balle rapidement? On vous emmène sur le parcours, découvrir un environnement extraordinaire. Et juste une petite parenthèse, moi j'ai démarré ma carrière sportive dans le basket. J'ai joué au niveau jusqu'en National 2 et j'ai découvert le golf à 16-17 ans. Et j'ai trouvé ce sport juste incroyable parce qu'il est extrêmement varié, extrêmement complémentaire avec tous les autres sports. Donc le golf, c'est le sport de tous les sportifs parce qu'il regroupe, je trouve, tous les aspects de tous les autres sports. Et même si c'est un sport individuel, c'est également un sport collectif parce qu'on le joue ensemble.
Et c'est ça qu'on trouve incroyable. En tout cas, je pense que je suis un des exemples, mais il y en a des milliers en France, où on commence à venir sur un parcours et tout de suite, on est pris dedans, on est pris par cette envie et cet amour pour ce jeu. Tu te souviens comment tu t'y es mis, toi, Julien ?
Et vraiment, ça s'est fait petit à petit. J'ai tapé un petit peu... Quand j'étais plus jeune, mon père jouait et de temps en temps, j'allais avec lui. Puis après, avec ma carrière de joueur de tennis, c'était compliqué de jouer de manière régulière. Donc, on jouait sur les tournois de temps en temps quand on pouvait. Et en fait, c'est vraiment en regardant certains grands tournois, les Ryder Cup à la télé, les majeurs, comme je passais beaucoup de temps aux États-Unis, parce qu'il y avait beaucoup de tournois là-bas. Le golf est roi là-bas et l'avènement de Tiger Woods, ça fait que ouais, on commençait vraiment à suivre ce sport. Et puis après, un petit peu à le pratiquer, jusqu'à maintenant le pratiquer énormément. Parce qu'effectivement, moi, je retrouve un peu l'état d'excitation et de concentration que quand j'étais joueur de tennis, quand je fais une compétition. Voilà, on est seul avec soi-même. Et il y a cette adrénaline qui est indescriptible.
Bon, il faut savoir que ouais. Julien, il a un geste vraiment très très beau. Non, vraiment, on sent que tu es un vrai golfeur, mais on sent aussi que tu es un sportif de haut niveau. Pourquoi tous les tennismans arrivent aussi bien à jouer au golf ?
Je pense qu'il y a le balancier, le rythme, on a ça dans notre sport. Après, il y a quelque chose qui est difficile, c'est que nous, dans le tennis, on est toujours en train de transférer le poids du corps dans la balle, à la frappe. Et donc au golf, il faut rester un petit peu derrière. Si on avance trop, on a tendance à faire des pushes. Moi, c'est où on est limite, pas en pivot inversé, mais presque. Et on a un petit peu tendance à... Voilà. Donc si on n'a pas commencé le golf tôt, avec le tennis, il peut y avoir ce défaut. Mais c'est vrai que le fait de... Le rythme et le balancier, c'est quelque chose qu'on a dans le tennis. Donc forcément, quand on est devant la balle, c'est un peu plus naturel.
Après, ça peut passer pour un point cliché, mais il y a une réelle filiation entre ce qu'on appelle les jeux de balle et le golf. Yvan Lendl, je crois, ancien tennisman, il est scratch ou il est même négatif. Rafael Nadal, je crois qu'il est pas loin de ça. Oui. Michael Jordan, qui jouait avec une sphère un peu plus grosse et plus lourde, il est pareil proche d'un handicap nul. Il y a une vraie prédisposition, j'ai envie de dire, pour les sportifs en tout cas de haut niveau qui ont joué avec des balles, quelle que soit leur forme et leur poids.
C'est pas vrai pour Stephen Brun, par contre.
Non,
oui. C'est dommage. Dommage.
On le connaît, évidemment, ouais. Notre ami basketteur sur RMC. On a échangé quelques parties avec lui. Il a gardé son tempérament, mais au niveau des lancers, c'est pas trop son truc. Je suis bien d'accord. Pierre-André, tu as dit tout à l'heure, venez comme vous êtes. Comment ça se passe pour un nouveau? J'ai envie de me mettre à ce sport. Il y a beaucoup de clichés, évidemment, dans ce sport que tu essayes avec U-Golf, avec Blue Green de combattre. Comment ça se passe concrètement pour un jeune qui veut venir jouer, qui veut venir s'entraîner? En tout cas.
Ben, il s'inscrit à l'initiation, il vient, il faut une bonne paire de, simplement une paire de baskets. Et puis ensuite, il est pris en main par nos enseignants. Et puis on emmène les joueurs sur le parcours, on insiste sur ça pour que les gens découvrent ce que c'est l'environnement du golf. On emmène un peu aux practices, sur les zones d'entraînement, on fait découvrir le golf et on passe 2 heures extrêmement formidables. C'est quelque chose, les gens repartent de là avec la banane et se disent « mais je ne pensais pas que c'était ça le golf ». Et c'est juste une expérience incroyable et à nous ensuite de les convaincre de continuer.
Ramucho, ce qui est important, c'est d'aller sur le parcours assez vite
quand on débute. Oui, bien sûr, parce que pendant longtemps, il fallait faire preuve d'un niveau technique pour avoir accès au parcours. Donc tout ça derrière nous, c'est terminé, cet état d'esprit. Maintenant, on est vraiment dans un public beaucoup plus jeune, le golf est beaucoup plus accessible. Et c'est vrai qu'on y contribue avec U-Golf et Blue Green. Mais ce que l'on veut, la finalité de tout ça, c'est qu'on veut créer des joueurs de golf, et non pas des joueurs qui restent collés aux practices. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le golf est technique. Alors, pas du tout, c'est simple, il faut vraiment, comme vous le dites, venir comme vous êtes. Et nous, on vous aiguille, mais on va vite dans la vérité du jeu, on va vite sur le parcours. effectivement, on va progresser également par des séances de, par des cours, par des séances de practice. Mais assez rapidement, même très rapidement, toucher la réalité du jeu en allant sur le parcours. Voir les greens, parce que c'est vu à la télé, voir ce qu'est un bois, voir ce qu'est un fer, et jouer directement sur l'herbe. Ça, c'est sûr que c'est indispensable.
Et puis, bon, moi, je ne suis pas là pour faire la pub, mais bon, comme je suis inscrit dans un golf du groupe YouGolf Bluegrid à Pessac, hein, pour ne pas le citer, c'est vrai que parfois, moi, j'assiste à l'heure de l'apéro, il y a des initiations collectives, et effectivement, il y a une quinzaine de personnes qui se regroupent, ils n'ont jamais touché un club de leur vie, donc il y a cette espèce de d'effet de groupe, quoi, qui permet, qui désinhibe un peu totalement, et on voit que les gens rigolent entre eux, effectivement. Alors, on se moque un peu au début de celui qui fait un geste un peu maladroit, mais effectivement, il y a une convivialité, et je trouve que moi, c'est ça que je trouve chouette dans les formules que vous proposez, c'est que effectivement, il y a cette espèce de convivialité qu'on n'imagine pas trouver au golf, a priori, lorsqu'on n'a jamais mis les pieds dans un golf, quoi.
Et pour compléter, c'est qu'on fait des initiations gratuites, mais c'est surtout la suite. On se dit, mais le golf, c'est cher. Et on casse ces barrières, puisque pour 90 euros en moyenne par mois, tout inclus, les leçons à volonté, on donne le matériel, on donne l'accès au parcours, tout ça est inclus pour environ 90 euros par mois. Et je connaissais un joueur qui me disait « Moi, je me suis mis au golf parce que je n'avais pas les moyens de fumer. » Et c'est vrai que jouer au golf, ça coûte moins cher que de fumer. Et vraiment, on casse le code du prix. On dit « Le golf, c'est un sport de riche. » Non, ce n'est pas un sport de riche. Quand on devient la quatrième discipline sportive en France, c'est plus réservé aux riches. C'est réservé à tout le monde.
Réservé.
Oui. Comme dit André, le golf, c'est largement démocratisé. C'est sûr que l'élève est pris en charge dans le bon sens du terme, il est équipé, il est encadré et il a accès au site, au parcours, ce qui était encore inconcevable il y a quelques temps.
Oui, mais vous serez d'accord avec moi pour dire quand même que les clichés ont la vie longue concernant le golf. Comment on fait pour casser ça? Alors, il y a le prix, évidemment, ça se popularise. Il y a aussi la tenue vestimentaire. Mais est-ce qu'il y a d'autres ajouts, d'autres choses qui vont être mises en avant? Je ne sais pas, moi, de la musique sur les practices, quelque chose qui fasse venir de plus en plus de jeunes, Pierre-André?
Eh ben, c'est un bon exemple, la musique sur les practices. On commence à développer ça pendant les leçons, parce que ça rend la leçon plus fun, et ça marche très très bien avec les enfants et pour l'école de golf. On passe un bon moment, on a de la musique, et on casse ces codes, vraiment ces clichés de dire il faut du silence, il faut avoir une tenue correcte. On fait évoluer les codes, on attire une nouvelle clientèle plus jeune, parce que c'est un sport de jeunes qu'on peut pratiquer toute sa vie. C'est l'avantage du golf, il n'y a pas besoin d'avoir des conditions physiques exceptionnelles, on se fait plaisir toute sa vie. Et ça démarre dès le plus jeune âge. Et je crois que le plus vieux licencié en France, il y a quelques années, il avait 105 ans. Je ne sais pas s'il joue encore, mais en tout cas, ça veut dire qu'on joue très vieux. Et ce n'est pas un sport de vieux, c'est un sport pour tous les âges. Et on peut jouer jusqu'au plus vieux un grand âge.
Tu aurais aimé, Julien, en faire carrière. Bon, pas fait carrière dans un autre sport, le tennis, mais c'est quelque chose de l'approche du golf qui t'aurait plu?
Ouais, bien sûr. C'est très semblable avec le tennis, c'est un sport individuel, c'est un sport itinérant. Les joueurs de golf voyagent beaucoup, semaine après semaine, ils sont tout seuls, ils doivent passer le cut. Nous, c'était les qualifs ou les choses comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. J'ai la chance de pouvoir faire plusieurs programmes et de rencontrer des joueurs français et on échange beaucoup là-dessus. Mais oui, c'est un sport, moi, qui me fait rêver, qui est très télévisuel en plus, je trouve. Et les grands tournois de golf ou les grandes compétitions de golf à la télé, c'est des moments magiques.
On sait évidemment que le golf, c'est technique, c'est donc assez difficile. On progresse tout de même assez vite. Quand on arrive sur un practice, j'ai envie de débuter, Ramucho, est-ce qu'il faut prendre rapidement des cours pour ne pas avoir de mauvaises habitudes ou non, c'est pas nécessaire?
Non, c'est pas absolument nécessaire. Mais déjà, si tu as déjà un bon rapport avec ton club, tu vois, si tu sais à peu près le manier dans l'espace et par rapport au corps et par rapport à la balle, c'est déjà gagné, tu vois. Mais il faut pas non plus s'imprégner du conseil, de trop d'exigences techniques, tout ça. Sinon, on passe à côté du sujet. Mais j'ai une balle, j'ai un club, et bien à moi de l'envoyer tout simplement le plus loin possible. Là, si on a déjà cet état d'esprit, on est bien parti. Après, évidemment, il y aura des aménagements techniques à apporter, mais avec cet état d'esprit, on avance déjà à grands pas.
Il y a quelques années, les jeunes, quand ils voulaient aller s'amuser, je parle comme un vieux papy, je n'ai que 38 ans, mais en tout cas, moi, il y a 20 ans, on allait au bowling. Bon, c'est devenu un peu ringard. J'ai rien contre le bowling, hein, si vous nous écoutez, la fédé de bowling. Mais maintenant, j'ai l'impression que les jeunes viennent au golf. Prendre l'apéritif, un after work sur un practice, non, c'est, ça se voit de plus en plus ou pas, Pierre-André ?
Et absolument, d'autant qu'il y a de plus en plus de practices qui sont équipées avec une technologie digitale qui s'appelle Top Tracer. Et donc, en face de son poste de practice, on a un écran et il y a plein de jeux possibles. On tape sa balle, alors on vise une cible ou alors on se met en partie, il y a une, c'est une forme de simulateur. Et puis, on partage finalement son poste de practice avec ses potes et puis on fait plein de jeux comme le bowling, on marque des points. Et cette évolution digitale du golf, ça contribue aussi à rajeunir notre population de golfeurs.
Ouais. Justement, tu ne crois pas si bien dire parce que, bon, comme dans beaucoup de domaines, on suit parfois une influence anglo-saxonne, voire américaine, pour pas citer les États-Unis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, au-delà du fait qu'il y a des parcours municipaux sur lesquels le green fee coûte 15-20 $, effectivement, bon, l'entretien s'en ressent effectivement un peu, il y a cette culture d'aller au golf pour s'amuser, effectivement, entre copains. Et lorsqu'on va au practice, au range, il y a des endroits où il n'y a qu'un practice, mais c'est effectivement ce qui a remplacé le bowling. On y va le soir pour boire un coup, pour faire des concours, taper des coups avec les copains. Et effectivement, je trouve que ça, c'est un truc qui fait que tu peux amener des gens au golf. T'es plus obligé d'aller. Alors après, c'est à nous aussi de développer les espaces comme ça dans les centres-villes aussi, peut-être, mais il y a cette culture américaine qui fait un petit peu, je trouve, bouger les lignes.
Il y a d'autres innovations à venir, hormis la musique sur le practice. Il y a d'autres choses comme ça qui sont dans les tuyaux pour essayer de le rendre un peu plus populaire.
Alors, j'insiste quand même malgré tout sur l'histoire du golf et ses atouts et cette culture qu'il faut qu'on préserve. Et notamment le respect du parcours. Alors oui, il faut moderniser, oui, il faut rendre l'accès plus facile au parcours, mais aussi garder les qualités intrinsèques de ce que c'est le golf, le respect de l'autre, le respect du parcours. On ne fait pas n'importe quoi, on insiste aussi là-dessus. On veut donner du plaisir, mais en gardant les règles historiques du golf, ses racines. Ça fait le golf, c'est un des plus vieux sports au monde. Premier parcours, Ramucho, c'est bien évidemment à Saint-Andrews. 18e siècle.
Voilà. Et à Pau également, au continent, sur le continent, absolument.
Exactement, qui a pas loin de 150 ans.
Oui.
Et ces racines-là, il ne faut pas les perdre. Donc c'est important, c'est mixer nos racines avec les nouvelles attentes. Mais ne perdons pas aussi ce qui a fait toujours l'esprit du golf.
Il y a un public à conquérir, il y a effectivement beaucoup de gens qui jouent déjà au golf et pour qui les racines et les valeurs dont tu parles sont très importantes, ouais. En effet.
Je te voyais acquiescer, Julien.
Ouais, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Et les joueurs qui jouent déjà, ils ont envie d'avoir un practice qui est nickel, avec des belles balles, avec des trucs. Et puis pour amener des gens au golf, oui, c'est pas grave si les balles ne sont pas de bonne qualité, s'il y a un peu d'ambiance, s'il y a un peu de trucs. Les top golf, c'est évidemment en France, il y en a pas, mais c'est l'avenir pour venir démocratiser et faire en sorte que les jeunes s'amusent. Mais c'est complètement différent que d'aller sur un parcours. C'est une autre discipline, mais c'est peut-être le premier pas. Et puis aussi dans l'accompagnement et dans l'éducation, je suis complètement d'accord, où il faut préserver certaines choses. Et quand on amène des nouveaux joueurs sur les parcours, parce que c'est important qu'ils aillent tout de suite sur le parcours et pas rester sur un tapis, dans un box, à taper des balles. Il n'y a rien de mieux ou de pire pour dégoûter quelqu'un. Mais il faut leur apprendre à relever un pitch, il faut leur apprendre à ratisser les bunkers, il faut leur apprendre à remettre les divots en place.
Il y a des codes, comme tous les sports, comme au judo.
Oui, parce que autrement, du coup, ceux qui jouent et qui sont derrière et qui ont joué depuis longtemps, ils ne vont pas avoir envie de ces nouveaux. Parce qu'un parcours de golf, ça se respecte. Et on le voit partout, que ce soit dans les grands golfs privés ou dans les golfs publics, entre guillemets, plus accessibles, c'est toujours pareil. En France, on ne prend pas assez soin de nos parcours.
Alors, relevez vos pitchs, c'est très important, mais comme tout amateur de golf, on s'arrange quand même un peu avec les règles.
Le practice RMC.
Monsieur, vous allez avoir des ennuis. Vous connaissez pas les règles du golf.
Le mulligan.
C'est celui qui arrive en premier dans le trou qui a gagné.
Le mulligan de Simon Dutin, quelle est la règle du jour ?
Bon, aujourd'hui, on revient à la base, hein, parce que je vous entends déjà certains auditeurs me dire « Oui, ça va, t'es mignon, on les connaît, tes règles, si on écoute votre podcast, c'est qu'on joue quand même un petit peu déjà. » Eh bien, très bien. cette bonne guerre. Mais déjà, il n'y a pas que vous. On s'adresse aujourd'hui aux débutants. Et puis, qui ici serait certain d'être reçu, par exemple, à l'examen du permis de conduire s'il devait le repasser demain? Quoi qu'il en soit, voici pêle-mêle quelques règles à respecter si vous ne voulez pas vous faire virer du parcours ou être signalé par des grincheux au clubhouse. 14 clubs, pas un de plus dans le sac, on l'a souvent répété ici. Heureusement pour JC, l'épuisette ne compte pas, c'est important. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un fer 3, ni même un fer 6 ou un fer 8 si vous débutez et jouez encore votre handicap de débutant. Au départ, la balle doit être placée entre les marques de départ. Elles sont en général rouge, bleu, jaune ou blanche. Vous pouvez choisir la ligne exacte entre les deux marques. Ou vous reculez jusqu'à deux longueurs de club derrière cette ligne, mais pas, bande de petits malins, vous avancez, évidemment. Vous êtes tenu de garder le silence, de ne pas bouger, ni de faire de l'ombre à la balle de votre compagne ou compagnon de jeu lorsqu'il s'apprête à jouer son coup. Si vous ratez la balle alors que vous aviez l'intention de la frapper, pas la peine de faire semblant, hein, c'est un air shot et ça compte pour un coup. Oui, oui, en revanche, si votre balle tombe du tee suite à un contact avec le club, mais que vous n'aviez pas l'intention de la frapper, vous pouvez la replacer sur le tee sans que cela compte pour un coup joué. Une fois sur le parcours, vous devez toujours jouer la balle là où elle se trouve et n'êtes pas autorisé à la déplacer. Si vous envoyez votre balle dans un endroit qui ne vous permet pas de la retrouver, vous devez rejouer du même endroit avec un coup de pénalité. Le joueur le plus éloigné du trou doit jouer en premier, même s'il y a toujours moyen de s'arranger entre gens bien éduqués et surtout pressés. Et celui qui fait le meilleur score sur le trou précédent a droit à l'honneur de jouer en premier au départ du trou suivant. Vous savez à peu près l'essentiel. Je vous précise que si d'aventure vous cassez un club, on en avait parlé ici, de rage après un mauvais coup, hein, on connaît des gens très bien à qui ça a pu arriver, hein, notamment au début, vous n'êtes pas autorisé à le remplacer. C'est-à-dire, pour nous, joueurs du dimanche, nous n'avons pas le droit d'emprunter celui de l'une ou l'un de nos partenaires de jeu.
Il y a un problème sur les règles là, Julien, j'ai la sensation.
Non, c'est pas sur les règles, mais sur celui qui est plus loin qui joue le premier, celui qui a fait le meilleur score à l'honneur, c'est vrai. Mais maintenant, il y a le Ready Golf, parce qu'il faut combattre le jeu lent, qui est le fléau majeur du golf. Des parties en 4h30, 5h, 5h30, c'est impossible. Donc, pour accélérer les parties, justement, on appelle le Ready Golf, et celui qui est prêt joue sa balle. Non?
On peut respecter l'ordre de jeu, mais c'est vrai que celui qui est prêt joue le premier. Ouais, oui. Okay. Ça fluidifie le rythme de jeu.
À chaque épisode, notre prof Ramucho vous emmène sur le tapis.
Le practice RMC.
Je vous conseille, ça devient un peu à gauche du drapeau, si c'était bac à sable devant. Ou bien, ouais, c'est ça que j'ai. Voilà, elle part bien. Elle joue, super.
Le tips de Ramucho.
Les oiseaux sont là, l'élève est là, professeur, aidez-nous à y voir plus clair. Je débute le golf.
Allez.
Pour tenter de lever la balle, je dois faire quoi?
Je tape mes premières balles. Donc, d'abord, on va s'approprier le club. Très simplement, on va placer ses deux mains le plus proche possible sur le club pour qu'il y ait à la fois du contrôle et la vitesse. Point barre. J'ai mon club en main. Deuxième étape, je m'installe devant la balle. Naturellement, je me mets face à la balle. Et ensuite, sur le mouvement, je vais chercher à ce que les bras et mon corps bougent ensemble, à la fois dans l'espace et autour de la balle. Et ça n'est pas terminé, le fameux finish, on ne l'oublie pas. C'est à la fois stylé et efficace. Donc je cherche à aller jusqu'au bout du swing en recherchant une position finale, équilibrée et surtout vers la cible. Et donc j'ai affaire à un joueur de golf déjà les premiers temps. Voilà.
Ok.
Mes balles vont voler, mes balles seront claquées et je serai le premier satisfait.
Ok, donc il faut être suffisamment relâché et il faut s'entraîner quand même à faire bouger justement ce club
autour de son corps. On fait bouger ce club et le corps étant le moteur, voilà, il va rester autour de cette balle et sans souci, mon club va rencontrer cette balle sur son chemin et la propulser vers l'avant. C'est déjà impeccable pour les toutes premières balles, les tout premiers coups.
Ok, donc il faut commencer par ça. Julien, c'est gratuit, je te promets, t'as un coach avec toi. Est-ce qu'il y a une zone de ton jeu que tu aurais envie d'améliorer ou une question que tu aurais pour Ramucho ou pas?
Mon chipping est mauvais et aussi mon chipping en partie est beaucoup plus mauvais qu'à l'entraînement. Donc c'est comment essayer d'arriver à m'entraîner dans les conditions quand je fais des séries de chipping à l'entraînement, ça ressemble à quelque chose et j'ai le résultat beaucoup trop de différence de résultat après quand je suis en partie sur mon chipping.
Prof,
il suffit juste de varier avec différents drapeaux le choix des clubs, des trajectoires et des longueurs. Donc c'est à toi d'être créatif, mais surtout sans rentrer dans la technique. J'ai un drapeau au fond du green, je m'adapte à ce chip. avec le choix du club, la trajectoire que j'ai recherchée, qui me paraît la plus judicieuse. J'ai un drapeau au coin du green, j'ai un drapeau près du green. Voilà, c'est en s'entraînant comme ça, en voyant ses coups, que quand je reste sur le parcours en situation, ben, j'aurai pas de surprise. Je serai moins inquiet, beaucoup plus serein.
D'ailleurs, il y a chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté le podcast sur le chipping, on y a consacré un numéro. C'est plutôt avec le 56, le 52 qui a un problème ou pas?
T'as quoi dans le sac? Moi, j'ai 58-54.
58-54, ok.
Mais là, je suis en train de changer. Je chipais beaucoup avec mon 58 et là, je prends plus mon 54 et je m'aperçois que j'ai beaucoup moins d'écart.
Moins de difficulté.
C'est-à-dire que quand je loupe un coup, il est moins loupé que quand c'est avec le 58.
Ouais. Pierre-André
Quand j'écoute Julien, j'ai l'impression de m'entendre. J'ai un problème de chipping. J'arrive à faire à peu près 20 cm sur un chip avec une grosse gratte et ça m'arrive régulièrement.
Oui, bienvenue au club. Il y a un numéro donc, sur le chipping où Ramucho vous délivre tous ses secrets. Craquer, se déchirer, ça n'arrive pas qu'à nous, chers auditeurs.
RMC. Triple bogey.
T'as reconnu la voix, j'imagine, Julien?
Si.
C'est qui? Yannick.
C'est très très drôle quand il a sorti celle-ci.
Yannick, après l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid, il en avait marre. On a été nombreux à en avoir marre, évidemment. On embrasse Yannick Noah. Le triple bogey de Simon Dutin, nous sommes le 16 juin 2018.
Et on est, comme vous le savez, jamais mieux servi que par soi-même au golf, encore plus qu'ailleurs. Alors en ce 16 juin 2018, lors du troisième tour de l'US Open, celui que l'on surnomme Lefty, le gaucher le plus célèbre de l'histoire de ce jeu, s'est offert sur le parcours de Shinnecock Hills dans l'état de New York un très beau cadeau de 48e anniversaire. Un bon gros pétage de plomb, une panne de courant sur le trou numéro 13 par 4 de 340 mètres. Après, une approche trop longue qui termine derrière le green, puis une autre encore trop longue qui le ramène devant le green. Philou se pose enfin à quelques mètres du trou en 4. Il putte pour boguer. Attends, attention, mon gars, ça descend fort.
His speed has been terrible. Whoa. Whoa.
Wow.
That's stunning.
Les commentateurs de la télé américaine en avalent le micro, ils n'ont jamais vu ça. Voyant que son putt trop long va envoyer sa balle en bas du green, le Californien court après, la rattrape, la dépasse et joue alors qu'elle ne s'est pas encore arrêtée. Oui, il joue la balle en mouvement.
Mais il est hors concours celui-là.
Avant de se pencher sur la morale douteuse de cette manœuvre, petit point, règlement, c'est 2 coups de pénalité. Du coup, on en était à 6, on passe à 8. Après avoir marqué sa balle, Mickelson rate encore son putt. Avant de finir, ça fait donc 10 sextuple bogey. Mais le problème est ailleurs, comme le traduit la stupeur qui s'empare de nos amis de Canal+, diffuseur français de l'événement.
Alors voilà, il a tapé sa balle en mouvement, Jean. On sait que quand on frappe sa balle en mouvement, c'est 2 coups de pénalité, tous les golfeurs savent ça.
Mais personne tape sa balle en mouvement.
Oui, non mais c'est prévu par la règle.
On apprécie au passage la consternation de notre Jean Vandevelde. Joue l'armée parce que c'est vraiment savoureux.
Mais personne tape sa balle en mouvement.
Oui.
Personne ne fait ça, évidemment, surtout pas nous, joueurs amateurs, quand on vient de rater notre 4e putt autour du trou. Oui, sauf que là, on parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, un étendard de la fierté Yankee qui tourne en ridicule le noble esprit de ce sport de gentleman lors de cet événement, l'US Open, qui est la vitrine du golf américain, à la fois amateur et professionnel. Du coup, il y a la règle, certes, qui s'applique, mais que faire de l'esprit de la règle?
Mais c'est un problème d'éthique qui pourrait renvoyer à frapper sa balle intentionnellement, donc ça serait la règle 1-2.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Qui voudrait dire que c'est la disqualification.
Sur les chaînes américaines, on est en breaking news. Lefty est sommé de s'expliquer au micro de Curtis Strange, double vainqueur de l'épreuve.
I don't mean disrespect by anybody. I know it's a 2-shot penalty and at that time I just didn't feel like going back and forth and hitting the same shot over. I took the 2-shot penalty, moved on. It's my understanding of the rules. I've had multiple times where I've wanted to do that. I just finally did.
Alors vous l'avez peut-être
bien,
compris, oui, Mickelson assume, il n'a pas voulu manquer de respect à qui que ce soit, il savait qu'il allait prendre cette pénalité, il ne se sentait pas de rejouer du même endroit et risquer de refaire plusieurs fois le même putt. Il avait déjà pensé à faire ça en compétition, il a simplement fini par le faire, c'est tout, voilà.
Non, la stratégie est excellente.
C'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège.
Et le stratège, chouchou du public, et à l'époque encore du PGA Tour, a vu juste puisque son 10 sur ce trou numéro 13 sera finalement validé par les officiels. Phil échappe à la disqualification et au déshonneur, même si en terminant la journée à plus 11, son pire score sur un tour à l'US Open, il se sera tout de même suffisamment ridiculisé, entretenant ainsi cette image de joueur aussi génial que par moments pathétique.
Bon anniversaire Phil Mickelson avec cette magnifique réussite et ce magnifique trou. Un pétage de plomb, ça t'est déjà arrivé toi Julien ?
Au golf ou au tennis ?
Au tennis je les connais, au golf aussi un petit peu, au golf.
Ouais, au golf, ouais, t'entends, ça rend dingue ce sport. Ouais, j'arrive plus à me contrôler que quand je jouais au tennis.
C'est vrai ? Pourquoi ?
Parce que bon, déjà,
c'est pas les mêmes enjeux.
Ouais, aussi. Voilà, je me dis, ça va, t'es là pour te marrer, passer du bon temps. Mais oui, c'est prenant, c'est frustrant parfois. Et ouais, le chipping ou le putting peut me rendre dingue.
Ouais. T'as souvenir comme ça d'un jour où t'as craqué ?
Craqué, non, j'ai jamais cassé de club ou quoi que ce soit. J'ai fait quelque chose qui est pas bien, c'est que je me suis énervé sur le green. J'ai fait un gros trou dans le green dans mon club à Saint-Cloud. Donc j'ai pris du temps. On était au 13. Et on était en match avec des copains, on pariait un petit peu d'argent. Donc je passe un ou deux downs, ça rigole un peu. Et donc je passe du temps à réparer le green. Et derrière, je n'ai plus dit un mot de la partie. Et je leur ai serré la main au 18 en leur prenant un billet quand même.
Ah ouais, voilà, c'est ça qu'on aime, le compétiteur. Et en plus, c'est lui qui disait « relevez vos pitchs tout à l'heure
». Bah ouais. Et... Non, c'est pas... Il m'avait jamais ça. Et à la fin, il me dit « ça va ». Oui, il s'énerve plus que moi d'habitude. Il me dit « mais... ça va, reste tranquille. Je sais que c'est pas à nous de te dire ça, mais il faut pas s'énerver. Je dis, non, ça va, tout va bien maintenant.
Pierre-André, un moment de solitude, un craquage ?
Craquage intérieur, parce que si ouais. Tu fais craquage extérieur, on te vire des parcours.
Exactement, ouais, c'est vrai.
Ok, bon, ça va, plutôt sobre alors. Pour terminer, le practice RMC, on va se détendre un peu.
Le practice RMC Clubhouse.
Le Clubhouse avec notre VIP, Julien Beneteau. Question courte, réponse courte. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, Julien ?
Absolument.
C'est parti. Le meilleur score de ta vie ?
74.
Sur un 72 ?
Non, sur un 71.
Ça fait plus 3, ouais. Si mes comptes sont bons. Ta distance au drive ?
250.
Ton club préféré ?
Fer 8.
Pourquoi ?
Parce que j'ai fait le seul trou en un de ma vie avec un fer 8.
Ok, ça tu vas nous le raconter juste après. Tu fais combien avec le fer 8, 130 mètres ?
Non, 135. 140, 145.
Pardon, excusez-moi, je m'adresse à un pro. Ton club détesté ?
Mon club détesté ?
Ouais. Le 58 ?
Non, le driver. C'est celui que j'aime le moins bien.
Pourquoi ?
Parce que je m'égare de temps en temps énormément et ça me coûte beaucoup de points dans une partie.
Ton parcours préféré ?
Kings Barnes.
Le mec connu que tu ne bats jamais ?
Olivier Patience, un ancien joueur de tennis.
Bien sûr, il est très fort ?
Très très fort, il a gagné, il a été champion de France cette année avec Saint-Cloud.
Le mec connu que tu bats toujours ?
Le mec connu, Lucas Pouille.
C'est vrai, oui, je sais que c'est un copain à toi, vous allez jouer, il est moins bon.
Pour l'instant, mais il s'y est mis depuis moins longtemps.
Le mec le plus insupportable sur un parcours ? Que tu es croisé, connu ? À part Stephen Bra.
Bah voilà, c'est lui. Non, Denis Charvet.
C'est vrai parce qu'il a toujours une grande
bouche.
Ouais,
il tchatche. Ouais, et puis il a un talent naturel, il joue jamais, il loupe jamais une balle quand même. Donc ouais. Il est pénible aussi. Il est insupportable là-dessus aussi.
Le joueur pro que tu essayes de copier ?
Il y en a beaucoup. Mais
comme ça aussi. Il y en a un que tu apprécies particulièrement ?
Bah, Tiger et McIlroy.
Oui, tu choisis le mauvais, t'as bien raison. Le parcours que tu rêves de faire ?
Augusta.
Je pense que j'ai dû avoir sur cette question 95% par 99%
c'est pas original.
Non mais je comprends, hein. Moi aussi j'aurais dit Augusta à cette question, donc il n'y a pas de problème. Le plus beau coup de ta vie ?
Eh ben, ce fameux 142 mètres pour mon seul trou en un et avec un coup de fer 8 et la nuit tombait et je ne l'ai pas vu moi parce que voilà, la balle roulait. Et puis surtout, il y avait un petit enjeu. C'est parce que quand on est arrivé pour payer, c'était aux États-Unis, et quand on est arrivé pour payer les green fees, on a vu qu'il y avait un grand chèque à l'américaine. Et okay. J'étais avec 4-5 copains du tennis, Edouard Roger Vasselin, Lucas Pouille et Benoît Paire, et on demande au pro shop qu'est-ce que c'est ça. Et ils nous disent si vous payez 10$ de plus au 17, s'il y a 3 en 1, vous gagnez la cagnotte. Alors tout le monde m'a dit vas-y, paye, pour nous, on te remboursera. Et on arrive au 17. Et il y a Edouard qui tape, Lucas qui tape, et puis moi je tape, et la balle on la voit pas. Et il y en a qui disent, elle est peut-être dans le trou, je vais arrêter de me faire croire n'importe quoi. Et Lucas Pouille est impatient, parce qu'il y en avait un qui devait jouer derrière, il prend la voiture, il va devant le green, il voit pas la balle, il va dans le trou, et là il hurle, Bennett, elle est dans le trou, t'as fait 3 en 1. Donc là on a même pas joué le 18. Et parce que j'avais gagné une certaine somme d'argent grâce à ce.
Tu peux le dire ou pas ? Il y a prescription, on peut dire. Combien t'as gagné ?
J'ai gagné 20 000 dollars.
20 000 dollars ! Oh, incroyable ! C'est-à-dire qu'en fait, un trou en un, juste... c'est déjà incroyable, mais déjà.
Et c'est le seul fois de ma vie, et quand tu sais que tu y as ça en comme jeu, c'est quand elle tombe dedans, c'est drôle. Et ce qui était fantastique, c'est que le parcours, il était dans une propriété. Donc il y avait plein de gens, on avait hurlé. Et il y avait plein de gens qui étaient sortis, qui applaudissaient. Il y avait un monsieur de 65 ans, il était dans sa piscine, il m'avait sorti une bière, il était tellement content parce qu'ils connaissent le fait qu'il y ait l'assurance sur ce trou-là. Et du coup, c'était juste 2 jours avant le confinement général. On était à Indian Wells, je suis rentré en France parce que le tournoi venait d'être annulé. J'ai reçu l'argent pendant le confinement. Donc les mecs, ils étaient tous morts de rire.
Magnifique. En tout cas, c'est déjà assez dur de faire un trou en un, mais le sortir au moment, ce jour-là, là où il y a une cagnotte, bravo, on reconnaît bien le sportif de haut niveau.
La chance surtout.
Merci beaucoup, Julien,
merci
d'avoir été avec nous.
À bientôt
Julien. Sur les greens. Merci, Pierre-André Hulen, directeur général
Hugolf
et Blue Green. Belle saison.
Merci.
Je rappelle que pour cette rentrée, vous êtes venu avec un cadeau exceptionnel. 1 an d'enseignement valable sur l'un des 100 Golf Blue Green et U-Golf. Ça s'appelle All For You. Dans le package, vous avez notamment les cours collectifs ou l'accès au parcours à volonté. Plus de 1000 euros, c'est la valeur de ce cadeau. Pour le remporter, vous envoyez Golf au 732-16. Simon Ramoucho, merci beaucoup.
Merci JC, salut
merci
tout le monde.
Un plaisir toujours d'être avec vous. Rendez-vous au 11e épisode qui sortira le vendredi 23 septembre. On va vous faire découvrir un futur grand. Tom Guéant, il a 21 ans, il va passer pro l'année prochaine. Il nous racontera son histoire et ses objectifs. Bon golf à tous, amis golfeurs. Et comme dirait Gary Player, au golf, plus on s'entraîne, plus on devient chanceux. Ça, c'est pour toi, Julien.
Le Practice RMC. Retrouvez le meilleur du golf sur le Practice RMC avec Blue Green. Blue Green, le golf comme vous ne l'avez jamais joué.